Le masque, le gel et la plume. Bonjour à toutes et à tous, et oui, même si nos horaires ont changé et se sont dédoublés matin et soir, si nous avons pour un temps abandonné le théâtre de l'Alliance française, même si désormais la vaillante équipe de critiques se parle sans se voir, même si nous n'avons plus vraiment le cœur à rire, même si les cinémas, les théâtres, les salles de concert, les musées sont fermés, le masque et la plume continue et veut plus que jamais, c'est vital, donner envie de voir, de lire, d'aimer ce qui est beau, de rappeler que le lien social est toujours culturel, donner enfin envie de débattre. Dans ce masque pour tant de pandémies, où les confinés parlent aux confinés, l'émission cinéma sera consacrée aux films qu'on peut voir chez soi, en DVD, Blu-ray, VOD, et l'émission littéraire aux livres papier ou numérique qu'on peut se procurer de mille façons, y compris sur les sites des librairies indépendantes. Aujourd'hui, c'est donc cinéma avec chacun chez soi et tous ensemble par le miracle du téléphone. Camille Nevers de Libération, Xavier Le Herpeur de 7e Obsession, Jean-Marc Lalanne des Arts Occuptibles et Michel Simon de Positif, dont je rappelle le numéro de téléphone fixe, Trinité 0007. Bonjour mes amis, rassurez-moi, est-ce que vous avez la forme les uns et les autres ? Camille ?
Oui, ça va très bien, je suis aux plumes.
Joli.
Xavier.
Oui, bah écoute, effectivement, on est confiné, mais avec une belle pile de livres à redécouvrir, pas mal de séries à revoir, des films, comme tu l'as dit, que l'on peut redécouvrir en VOD. Donc, il y a pire comme confinement.
Jean-Marc, les Arocs continuent ?
Les Arocs restent ouverts, oui, on continue, en télétravail. Ouais.
Cher Michel.
Positif continue aussi, d'ailleurs il sera en vente très bientôt, le numéro d'avril, voilà, on a travaillé. Et puis je suis confiné, mais quelle merveille de pouvoir lire et regarder des films tranquillement.
Et de continuer le masque et la plume. Au programme du jour, évidemment, le film catastrophe qui cartonne, Contagion, du visionnaire Steven Soderbergh, mais aussi des classiques restaurés et remasterisés qui sont sortis ce mois-ci en salle, juste avant qu'elle ne ferme. Je veux parler d'Elephant Man de David Lynch, Le silence des agneaux de Jonathan Demme, Close-up d'Abbas Kiarostami, Le chèque blanc de Federico Fellini, Mississippi Burning d'Alan Parker et Voyage à deux de Stanley Donen, plus tous les conseils que tous les quatre ne voulaient pas manquer de donner à nos auditeurs en fin d'émission. Rapidement dans le courrier de la semaine que vous pourrez, chers auditeurs, nourrir de vos propres conseils dans les semaines qui viennent. Arnaud Sanquer a aimé Dark Waters, c'est beau de voir Todd Haynes rendre hommage avec modestie à la grande tradition US du film enquête, mais frustrant de le sentir sur la réserve en termes de mise en scène. Jean-Jacques Portaille de Melbourne en Australie revient en râlant sur le prix étranger des auditeurs du masque décerné à Parasite, que Jean-Jacques Portaille trouve laborieux, balourd, manichéen, avec une fin grand-guignolesque frisant le ridicule. Ça, c'est pour Camille. Tiens, Jules, juge la comparaison faite par Camille au dernier masque entre l'acte de résistance d'Adèle Haenel le soir des Césars et la résistance de Charles de Gaulle dans le film de Gabriel Lebeaumin, pour le moins outrancière. Au masque comme ailleurs, il semble urgent de redevenir mesuré. Enfin, Pierre Cuzor est submergé par la tristesse. « Je ne pars en vacances jamais, car je donne priorité au théâtre, à l'opéra et au cinéma, qui sont mes vraies passions. » et me font voyager plus que de vrais déplacements. Aujourd'hui, ajoute Pierre Cuzor, ces lieux magiques sont fermés. On m'enlève ce qui me nourrit, me fait respirer, me fait vivre. Cher masque, qu'allons-nous, qu'allez-vous devenir ? Abreuvez-nous de vos conseils pour occuper nos journées de confinement. Merci encore pour la qualité de vos émissions et ces rendez-vous hebdomadaires essentiels pour moi. Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui. Et on commence, si vous le voulez bien, avec ce film qui cartonne sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming, Contagion de Steven Soderbergh, film de 2011, scénarisé par Scott Burns, dont la source se trouve, ou se trouverait, dans l'épidémie de SARS de 2003, où un virus importé de Hong Kong contamine le monde entier à une vitesse supersonique avec les doctoresses. Et oui, Marion Cotillard et Kate Winslet, mais aussi Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law, et des séquences qui évoquent très exactement pandémie globalisée du coronavirus, recherche du patient zéro, alors dans les films c'est Gwyneth Paltrow, intervention alarmiste de l'OMS, mise en quarantaine des pays infectés et course à la montre pour trouver le vaccin. 10 ans après sa sortie, le film tient-il le coup? C'est la question, mes amis, que je vous pose, Camille.
En fait, je ne l'avais jamais vu, n'étant pas une grande fan de Soderbergh, j'avais passé mon tour. Donc là, j'ai découvert en plein coronavirus. Donc c'est assez étrange comme expérience, à la fois parce que c'est une fiction totale, donc on a du mal à claquer sur notre réalité actuelle, et en même temps, c'est tout à fait juste par rapport à ce qui arrive en termes de mécanique, en termes de circuits reconstitués par Soderbergh, parce qu'il n'y a que ça qui l'intéresse, c'est le trafic des émotions, des informations. C'est un peu le SAS américain, et comme ça, entre les personnages qui se battent contre cet ennemi invisible qu'est ce virus. Et comme on n'a aucune façon de pouvoir s'identifier à un virus, qui c'est pas un monstre, c'est quelque chose d'invisible, il arrive à peu près dans cette circulation des choses entre les personnages à reconstituer une cruauté de l'hécatombe, de toutes ces stars qui meurent les unes après les autres sans du tout de discrimination. Enfin, il y a un arbitraire du film où Kate Winslet est géniale et tout d'un coup elle est plus là. Et il y a peut-être, c'est ce qui est le plus beau dans le film, c'est cette façon dont il fait avec des vedettes des sortes de victimes qui tombent, et c'est ce circuit et cette espèce de film choral qui est assez touchant, même si c'est assez curieux de le voir maintenant. Je ne sais pas s'il faut les conseiller vraiment, à moins d'être...
Oui, tu l'as dit, la seule chose que je vous demande, c'est là, pour le coup, de ne pas raconter la fin. Michel ?
Alors, le thème de la contagion, voire de l'inoculation et de l'addiction, elle court en filigrane de Kafka à The Informant, en passant par Traffic et Eric Brockovich. Soderbergh réussit magnifiquement de faire un récit choral. Il l'avait déjà réussi avec Traffic, c'est-à-dire... en fait, ce sont des rhizomes, des rapports entre des pays différents, des villes différentes. On circule. Dans un entretien qu'il nous avait donné à Positif, il disait que l'histoire doit progresser aussi vite que le virus. Et c'est un peu ce qu'on ressent effectivement devant le film. D'autre part, c'est en même temps un style très clinique, très proche d'une sorte d'analyse presque médicale. Et c'est un film très fort sur le crépuscule de l'humanité et la maladie qui emporte tout sur son passage.
Xavier, tu conseilles de le voir ou de le revoir ?
C'est une sensation un peu étrange, effectivement. Camille a raison. Moi, je l'avais vu et j'avais trouvé ça, du Soderbergh, assez impressionnant, assez efficace. De
très efficace.
En scène, très efficace, ouais. Ça, il faut le reconnaître, sur l'effet de montage, sur la multiplicité des lieux et des géographies sur lesquels le virus est en train de s'attaquer, de disséminer. Je continue de trouver que la première partie est quand même plus forte que la deuxième. Je trouve que toute cette façon extrêmement rapide, la manière dont le virus dissémine, envahit le monde entier et va tuer peu à peu l'humanité dans tous les sens du terme, d'ailleurs physiquement et presque l'âme de notre humanité, puisque la deuxième partie montre comment on va se foutre sur la gueule pour pouvoir obtenir un rouleau de papier, ce qui est déjà pratiquement le cas avec le coronavirus. Je trouve que la deuxième partie se délite un tout petit peu, mais
oui,
ça reste
le moment où il s'écroule en pleurs.
Non, mais il y a des très bons moments. Je suis d'accord avec toi, Camille. Mais je préfère le film dans sa première partie, qui est effectivement quelque chose de très froid, de très inquiétant, et alors de doublement inquiétant effectivement aujourd'hui avec ce qu'on vit.
Jean-Marc,
moi je trouve le film extrêmement déplaisant. Déjà très déplaisant il y a presque 10 ans. Et là, je trouve carrément glaçant. Je trouve que l'espèce de formalisme ludique qui est la marque de Soderbergh trouve vraiment sa limite sur ce sujet. On a vraiment le sentiment qu'effectivement, le film est solidaire du virus et qu'il s'amuse d'orchestrer une sorte de jeu de massacre géant où effectivement tout le star system mondial est décanillé avec une sorte de gourmandise que je trouve très malaisante. Et puis surtout, je trouve que malgré tout, c'est assez peu arbitraire ce processus d'élimination. C'est-à-dire que la manière dont est flingué le personnage de Gwyneth Paltrow, qui est la femme adultère, et dont est sauvé son mari fidèle, qui est une espèce de bon papa, Je pense que Soderbergh s'en fout complètement. C'est vraiment un scénariste. C'est vraiment pas du tout le genre de thématique qui l'intéresse. Mais il aurait dû vraiment le supprimer. Il le filme sans le filmer. C'est complètement ça surnage au-dessus du film sans que vraiment il le traite. Et je trouve ça vraiment d'une grande bêtise. Moi, je trouve le film très désagréable.
Mais tu le trouves pas efficace, Jean-Marc ?
Alors là, je suis assez d'accord avec Xavier, c'est-à-dire que la première partie, on peut effectivement être vaguement amusé par cette espèce de façon dont ça va très vite, le virus passe comme ça d'une main à l'autre et tout le monde tombe, mais la deuxième partie...
C'est très sec. Contre,
ouais, mais la deuxième partie est quand même très confuse, et toute la partie Marion Cotillard, par exemple, je la trouve assez peu lisible et assez peu compréhensible.
Bon, eh ben écoutez, c'est Contagion de Steven Soderbergh. Même les propos de Jean-Marc n'arriveront pas à faire tomber le succès incroyable de ce film, mais là, pour d'autres raisons peut-être. Il devait ressortir en salle le mercredi prochain, le 25 mars, en version restaurée. Il est néanmoins disponible en DVD, VOD et Blu-ray. C'est le légendaire Elephant Man de David Lynch, film de 1980 en noir et blanc avec John Hurt dans le rôle titre, Anthony Hopkins dans le rôle du docteur Frederick Treves, dont les mémoires ont d'ailleurs inspiré le film, et Anne Bancroft, phénomène de foire, je le rappelle, dans le Londres de 1884, l'homme éléphant est arraché à son propriétaire par le docteur Treves et placé pour analyse dans la chambre d'un hôpital. Et là, l'homme monstrueux et mutique se met à réciter des passages de la Bible et montrer une intelligence, une sensibilité exceptionnelle. Mais son propriétaire compte bien tirer encore profit de son Elephant Man. Le film de Lynch a exactement 40 ans. Que vous inspire-t-il donc aujourd'hui, Xavier ?
Eh bien, moi, je l'avais vu à sa sortie, j'avais donc 13 ans, j'étais encore un tout jeune garçon, ce qui n'est plus d'actualité, bien évidemment, et j'étais sorti de là, mais bouleversé, enfin, je me revois, j'étais à la pagode, j'étais en larmes, enfin, révolté contre le monde, contre le fait qu'on n'accorde pas à la différence le droit qui est la sienne, enfin, bon, bref, c'est un film, moi, qui a bouleversé mon enfance et mon adolescence, et qui m'a marqué, et que, bizarrement, je n'avais pas revu, sans doute, parce que j'avais un petit peu peur de toucher à l'objet sacré. Moi, ce que j'ai aimé en le revoyant, d'abord, la copie, il faut le dire, est absolument magnifique sur les contrastes et sur les noirs et blancs, et c'est important quand on voit le travail de metteur en scène, de formaliste de David Lynch, c'est la contradiction en fait entre le récit qui est un vrai tire-larme, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on s'apitoie sur cet homme éléphant avec ce qui lui arrive évidemment, cet objet de foire, cet objet de curiosité toujours morbide et toujours malsaine, et la mise en scène de David Lynch, dont je n'avais pas le souvenir qu'elle soit aussi forte, expressionniste, cauchemardesque, obsessionnelle. Elle est absolument sublime dans certains moments. C'est un film sur l'art industriel. Donc, en plus, il utilise énormément le bruit des machines, le son comme ça un peu étrange de cette époque, de ce Londres victorien. Donc, il y a une contradiction entre ce mélo qui pourrait se suffire à lui-même et le travail formel de David Lynch qui va chercher, mais vraiment dans les origines du cinéma, Galligari, Nosferatu, enfin, les grands films expressionnistes, quelque chose d'extrêmement violent, quelque chose d'extrêmement cauchemardesque. Et il y a un travail comme ça sur la profondeur de champ, sur le travail, sur la ligne de perspective. Il y a une scène de poursuite à un moment dans la gare où l'homme éléphant est accusé par une foule en furie d'avoir bousculé une jeune fille.
Ah oui, c'est à la fin, c'était
mais vraiment, c'est grâce à la mise en scène. C'est-à-dire, comment est-ce que d'un tire-larme, d'un mélo absolu qui voudrait nous faire vomir des larmes, eh bien David Lynch travaille quelque chose de totalement transversal, de magnifique en termes de mise en scène, tient son récit justement sur une autre pente, qui est celle non seulement de la différence, mais celle de l'esthétique. Et je trouve que c'est un film qui n'a pas pris une ride en 40 ans. J'ai moins pleuré, mais j'ai été estomaqué une fois encore par le grand travail de metteur en scène qui est David Lynch.
Jean-Marc, est-ce que ça a changé ta jeunesse, ton enfance, ta
vie ? Oui, exactement. Enfin, je souscris absolument à tout ce qu'a dit Xavier. Moi aussi, je l'ai vu adolescent. Moi aussi, adolescent, complexé, mal dans ma peau. Je m'identifiais complètement à Elephant Man.
Ah oui,
plusieurs fois, je m'en blessais. Et de la même façon, et franchement, je n'ai jamais eu le désir de le revoir. C'est-à-dire que c'est vraiment un film qui était associé à une période de ma vie et que je n'ai jamais revu. Mais entre-temps, par contre, j'ai découvert l'œuvre de Lynch. Et du coup, c'est très, très troublant de revoir le premier Lynch qu'on a vu, qui est quand même assez différent de tout ce qu'il fera par la suite, qui est beaucoup plus narratif, beaucoup plus classique dans sa facture scénaristique, mais en même temps, évidemment, de reconnaître complètement l'univers visuel de Lynch. Et j'étais aussi surpris de voir que le film, en fait, là, ne m'a pas du tout fait pleurer, et que la mise en scène de Lynch tient quand même énormément à distance les procédures du mélodrame qui sont à l'œuvre dans le scénario. Et ce qui m'a bouleversé, mais sans me faire pleurer, c'est-à-dire que finalement, je trouve le film assez peu tire-larmes, c'est l'immense bonté, la bonté extraordinaire du personnage qui, à aucun moment, ne retourne la violence dont il est victime. C'est comme s'il était l'essence même de l'humanité dans ce qu'elle peut avoir de plus sublimé. Et là-dessus, cette dimension un peu christique du personnage, mais à laquelle John Hurt donne une simplicité, un prosaïsme. J'adore sa manière de se déplacer, la lenteur extrême de ses gestes. Je trouve que c'est vraiment très, très émouvant et sans être du tout grossier dans ses effets mélodramatiques. Et puis par ailleurs, je trouve que c'est peut-être le plus beau travail de maquilleur, de concepteur maquilleur de l'histoire du cinéma. Je trouve que le masque est vraiment sublime, c'est quasiment une œuvre d'art. On a l'impression que c'est une planète, une galaxie. On a l'impression que c'est plein de matières différentes qui le constituent. Et John Hurt peut jouer de son visage qu'avec ses yeux. Et la manière dont ses yeux transpercent ces tonnes de latex, c'est vraiment fascinant tout le temps.
Je te demande pas, Camille, si ça a changé ta vie.
Je ne l'ai pas vu à l'époque parce que je n'allais pas voir les films de Lynch. En fait, il a fallu attendre Twin Peaks pour que je m'intéresse vraiment à lui. Parce que j'avais détesté Eraserhead, en fait. Et après, et de plus en plus, je me rends compte à quel point David Lynch est un immense, mais vraiment, je crois que je le mets très, 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 très haut, peut-être le plus grand cinéaste actuel. Et de voir.
Ah oui, carrément.
Ah oui, vraiment. Je pense qu'il a devancé tout le monde sur plein de choses. Et sur la violence, et sur la compassion. Parce que pour moi, Elephant Man, c'est quand même un très, très, très beau film sur la compassion. Et sur la question que ça pose de la fausse ou de la vraie compassion. C'est son film sur le spectacle, quoi. C'est son film sur qu'est-ce qu'on fait avec un spectacle qui nous tire les larmes. Parce que c'est un film où il y a beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs. C'est un film assez beau sur la texture, comme disait Jean-Marc, entre le maquillage de John Hurt, mais aussi sur le côté purulent, comme ça, de cette chair et de ces visages qui pleurent en voyant ce monstre. C'est pour moi un film très... c'est son film le plus Todd Browningien, quoi. Freaks, revu par David Lynch, mais sur le
côté... Sans la cruauté, étrangement, non.
Il y a la cruauté avec tout le côté cirque, tout le côté le monstre de foire. Mais c'est surtout sur la compassion. Et effectivement, c'est là qu'on voit que Lynch est quelqu'un qui s'est filmé la violence avec une telle acuité que c'est un hypersensible. Enfin, il y a quelque chose comme ça. On sent qu'il est vraiment lui-même ému, comme Anthony Hopkins l'est par cet être. Ou peut-être qu'il s'identifie lui-même. Alors, c'est vrai que c'est toujours avec une histoire de viol originel de la mère par un éléphant. Enfin, un truc de monstruosité, d'enfantement monstrueux. Et en même temps, sur justement ce sentiment qui est la compassion, qu'on appelait autrefois la charité, et qu'aujourd'hui on appelle l'empathie, par rapport à nous, spectateurs, face au film, à quoi on offre notre émotion et nos larmes. Je trouve que c'est vraiment... Et Anne Bancroft est géniale. Je savais pas du tout que Mel Brooks a été à l'origine du film, parce que je parlais de Mel Brooks pour Jojo Rabbit l'autre fois, et il a refusé à ce que son nom soit inscrit au générique, parce qu'il pensait que ça allait faire un malentendu sur le côté pas du tout comique du film, mais Anne Bancroft, qui était son épouse, campe une comédienne, c'est sublime, les 3-4 scènes qu'elle a, voilà, pour ceux qui se souviennent de John Ford, de Frontières chinoises et tout, voilà, c'est un très beau film.
Michel, tu avais rencontré quoi, David Lynch à ce moment-là pour la sortie du film, non ?
Non, j'ai rencontré Lynch plus tard, mais à vrai dire, il faudrait replacer le film dans la carrière de Lynch. Voilà un homme qui avait fait un film expérimental, que peu de gens avaient vu. Il avait les fanatiques comme Stanley Kubrick, qui adoraient le film, Eraserhead, et puis il reste sans travail pendant 4-5 ans, et ensuite on lui propose de tourner en Angleterre un film qui est Elephant Man. Et ensuite il va tourner Dune, qui est un film de science-fiction, qui est un ratage, à mon avis, assez monumental, et rien ne laissait prévoir des films aussi modernes, aussi audacieux, que le Blue Velvet, que Mulholland Drive, que Lost Highway, et en même temps, c'est son plus grand succès commercial, à part la série Twin Peaks à la télévision, c'est le plus grand succès de Lynch. Moi, je trouve le film très classique, et c'est dû beaucoup, à mon avis, au chef opérateur du film, Freddy Francis, qui était un metteur en scène de la Hammer, qui mettait en scène des films d'épouvante au début des années 60, et le noir et blanc et tout ça, c'est tout de même Freddy Francis. L'esthétique d'Elephant Man, ça se renvoie effectivement à ces films d'horreur des années 60 et même au film antérieur de l'expressionnisme allemand. Donc je trouve que c'est un film absolument passionnant à revoir. C'est également un film à la Dickens. Je pense que Abdelatif Kechiche s'en est souvenu quand il a fait Vénus Noire. C'est la même époque. Évidemment, la Vénus Hottentote, c'était un peu un monstre tel qu'il est montré dans le film de Kechiche. Mais ce qui est très beau dans le film, c'est cette dimension mythique. Et c'est aussi l'habileté du scénario, parce qu'on découvre finalement, seulement au bout de 40 minutes, on découvre le monstre. Et ensuite, on découvre sa parole. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de progression dramatique, et le scénario est pourtant extrêmement ténu, extrêmement mince. Donc c'est un film passionnant.
Elephant Man de David Lynch, et pour ceux qui nous prendraient en cours de route, je vous rappelle que vous écoutez bien France Inter, que c'est bien le masque et la plume, un masque et la plume de confiné, un masque et la plume téléphonique, un masque et la plume un peu surréaliste, mais je l'espère, un masque et la plume aussi très prescripteur. Le silence des agneaux de Jonathan Demick, film de 1980 qui devait ressortir en salle le 1er avril, et c'est pas un poisson, en version restaurée avec Jodie Foster, Anthony Hopkins, encore lui, mais cette fois en Hannibal Lecter et Scott Glenn, et qu'on retrouve en DVD et Blu-ray. C'est, vous le savez bien sûr, l'adaptation du deuxième opus de la tétralogie de Thomas Harris, où un tueur en série, Buffalo Bill, découpe exactement comme Xavier Le Herpeur, le fait souvent, la peau de ses victimes. Clarice Sterling, une jeune stagiaire du FBI, Jodie Foster, mène son enquête en passant par la case prison où croupit depuis 8 ans le docteur Hannibal Lecter, alias Hannibal le Cannibal, qui posséderait des informations capitales sur Buffalo Bill. Ce polar grand guignol a reçu la bagatelle de 5 Oscars. Meilleur film, meilleur réalisateur. Est-ce qu'il les méritait selon vous, Michel?
Ce que je sais, c'est que c'est un film qui m'avait énormément impressionné. Jonathan Demme est un metteur en scène extrêmement éclectique. Il avait réalisé Dangereux sous tout rapport, des comédies, Veuve mais pas trop, un pastiche de film de gangster. Donc cette fois-ci, il fait un film sur un serial killer. C'est un scénario assez diabolique, assez, c'est le cas de le dire, puisque le Hannibal Lecter, donc le monstre, est en même temps celui qui va aider à capturer Buffalo Bill, l'autre monstre. Donc il y a une sorte d'emboîtage de poupées russes qui est assez fascinant. Et d'une certaine façon, on peut dire que Hannibal Lecter fait se fourvoyer des enquêteurs avec des fausses pistes, un peu que Jonathan Demme avec le spectateur. C'est-à-dire que Jonathan Demme joue avec le spectateur de la même façon que Hannibal Lecter. Alors c'est un film terrifiant. Alors, vraiment, je pense que c'est un des films qui m'a fait le plus peur dans mon souvenir, avec Jodie Foster extrêmement touchant dans ce rôle de femme qui essaye de bien faire, de soigner, de d'enquêter, etc. J'ai trouvé sa performance, c'était la découverte, pas la découverte, mais c'était la confirmation de son talent, puisqu'on l'avait vu dans Taxi Driver. Et je trouve que le film, oui, c'est vraiment un film sur un personnage qui ressemble à Mabuse, qui est un peu omniscient, omniprésent, et qui a été incarcéré depuis 9 ans, et qui prévoit un peu tout ce qui va se passer. Donc, en même temps, c'est une société qui est désarmée face à un monstre qu'elle a engendré.
Camille?
Oh bah ça, c'est un film que j'avais absolument adoré à l'époque. C'était 91, c'était la grande année de Jodie Foster, parce que donc il y avait ce film qui avait un petit peu marqué tous les esprits, qui était Le Silence des Agneaux, et c'était aussi l'année où elle passait à la réalisation en réalisant son premier film, Le Petit Homme. J'avais eu même l'occasion de l'interviewer à l'époque, et c'était un petit peu le moment où elle explosait en termes de figure d'actrice et de femme de cinéma, parce que le film, c'est quand même elle. Enfin, je l'ai revu quelques fois, et à part ce qui marque et ce qu'on retient de toute façon, c'est les entrevues entre elle et Hopkins. D'ailleurs, il semblerait que Jonathan Demme ait eu envie de faire jouer Hopkins en voyant Elephant Man.
Ah oui?
Oui, oui. En y repensant avec le temps et le recul, il y a vraiment des choses qu'on n'avait jamais vues au cinéma. Alors, le film est très classique, hein, c'est une enquête, c'est un genre qui était à l'époque très en vogue, qui était le film de serial killer, etc. Mais il y avait des choses qu'on voyait, on n'avait jamais vu une femme courir en sweatshirt plein de transpiration, on n'avait jamais vu une femme enquêter comme ça dans un truc de FBI, au milieu de mecs qui ne lui faisaient aucune confiance.
Tu y vois, Camille, une nouvelle façon, déjà en 91, de filmer les femmes au cinéma?
Le personnage n'est pas du tout une femme dans l'empowerment, comme on dit aujourd'hui. C'est pas Sigourney Weaver dans Alien ou tout ça. C'est vraiment une femme qui est apeurée, qui a des choses à régler. On sent que voilà, elle est très fragile et jusqu'au bout, elle le restera. C'est pas du tout quelqu'un qui va gagner en confiance en soi. Et en même temps, c'est ce qui rend le personnage assez rare et comme un réceptacle. Tout ce qui l'entoure, elle est hyper sensible à ce qui l'entoure, à l'entourage. Elle est tout yeux, tout ouïe. Et donc, ça donne. On est à sa place, le film est filmé de son point de vue. Et je pense que c'est un film qui a réinventé par elle le champ contre champ, enfin, l'idée de ce que peut être un entre-deux, entre deux regards qui peut être terrifiant.
Jean-Marc ?
Ah oui, je suis complètement d'accord. Moi le film, je trouve bouleversant et très, très beau. Et surtout, c'est très fort de le revoir aujourd'hui parce que, comme l'a dit Camille, c'est vraiment un film qui montre, comme on l'avait peu vu avant, la violence que c'est d'être une femme dans un milieu social totalement masculin. Il réussit comme ça, au détour d'un plan, d'imprimer quelque chose dont on se souvient pour toujours. Et le moment où elle rentre dans un ascenseur où il n'y a que des Macs dans 1m95 autour d'elle, et juste elle vient dans un petit regard comme ça sur le côté, comme si elle voulait paraître ignorante de sa différence physique. C'est vraiment très, très beau. Il y a énormément de plans comme ça. Tout ce qui est aussi effet de miroir entre le père, il y a le père mort, il y a le père totalement idéalisé qui est cet homme qui est patron FBI et avec qui elle a un rapport extrêmement ambigu, et il y a Hannibal Lecter qui serait un père ogre diabolique et qui en même temps va être vraiment une sorte de maître de conscience et qui va l'amener à accoucher du meilleur d'elle d'un point de vue professionnel. Et la façon dont les deux, le mauvais père et le bon père, il y a une ambivalence absolue entre eux, et d'une certaine façon, le bon père a quelque chose qui fait tout aussi peur dans l'ambiguïté qu'il noue avec ce personnage de fille symbolique. C'est vraiment très, très puissant. Après, moi, je dirais qu'il y a quand même deux films. Il y a le film d'Hannibal Lecter, qui n'est pas celui qui m'intéresse le plus, dans lequel il y a beaucoup d'effets, et un peu, comme tu le disais, Jérôme, de grand guignolesque. Et il y a vraiment le film de Clarice Starling, que je trouve un chef-d'œuvre absolu, et la manière dont Jodie Foster est une pure instance de perception. C'était vraiment une surface qui reçoit des informations. On est totalement solidaire de la manière dont elle frémit à tout ça. Je pense que c'est vraiment un très grand film.
Alors, je précise quand même, là, c'est le docteur Garcin qui parle, que je ne suis pas sûr que ce silence des agneaux va apaiser, tranquilliser les confinés. Xavier, je le disais, qui est un peu notre Buffalo Bill du Masque et la Plume, qu'est-ce que tu en as pensé?
Je trouve, moi, c'est un film qui m'a terrorisé quand je l'ai vu. En le revoyant, je me dis que sa force, qui a été effectivement soulignée par tous mes petits camarades avec beaucoup de virtuosité et d'intelligence, c'est aussi sa faiblesse. C'est-à-dire que je pense que le film a pris quand même un petit coup de vieux. Il a tellement inspiré toutes les fictions, et en particulier celles de la télé, que TF1 diffuse tout le temps, qui s'appelle Esprit criminel, qui reprend vraiment tous les codes du récit du silence des agneaux, c'est-à-dire la fausse piste, on va pas à la bonne maison, on défonce une porte qui n'est pas la bonne, évidemment, enfin voilà. Et je me suis aperçu que malheureusement, le film Jonathan Demme, qui encore une fois, moi, m'avait traumatisé, a tellement été repris qu'il s'est un tout petit peu vidé aussi de sa substance.
Je pense que le film, il est vraiment sur Clarisse et sur son drame.
Alors, tu m'aurais laissé finir, Jean-Marc, toi-même, par téléphone. J'y serais arrivé, je pense.
Vive Jodie Foster.
Mais voilà, la psychanalyse du film a quand même terriblement vieilli. Je pense qu'on ne pourrait pas représenter la problématique des transsexuels et des transgenres comme on le fait dans le film. C'est effroyable. Je suis pas sûr que le traumatisme du silence des agneaux fonctionne encore très très bien. Sauf que, effectivement, et j'en arrive là où tu voulais en arriver, Jean-Marc, et tu as eu raison de m'interrompre, même si j'enrage, c'est qu'elle sauve absolument tout le film par un jeu d'une intelligence, d'une subtilité, d'une férocité, d'une résistance. Elle est au bord de craquer et elle se remet. Elle, vraiment, les scènes où elle n'est pas là sont presque inutiles, sont presque dispensables.
Ouais, c'est vrai.
La scène où il se met à bouffer les deux gardiens de prison, on s'en tape, enfin, c'est vraiment du sang pour le sang. Et dès qu'elle arrive, elle arrive avec quelque chose de glaçant, de vraiment terrorisant dans tout ce qu'elle porte, dans tout ce qu'elle... Elle arrive même à atténuer le jeu d'Anthony Hopkins, qui a tendance quand même un tout petit peu à surjouer. Surtout quand il fait comme ça avec les dents pour bien montrer qu'il adore le cerveau et le foie, surtout l'humain. Mais elle est géniale parce qu'elle a une tonalité. Il faut écouter pratiquement le film. C'est-à-dire la voix, la manière dont Jodie Foster ne va jamais dans les excès. Quand on pense que Michelle Pfeiffer et Meg Ryan avaient été approchés pour le rôle, là on tremble vraiment, effectivement, parce qu'elles en auraient donné des tonnes, elles en auraient mis effectivement du surjeu et de la surenchère. elle, pas du tout. Et c'est justement cet effet de contraste qui fait qu'aujourd'hui encore, Le silence des agneaux, malgré le fait qu'il ait un peu vieilli sur beaucoup de choses et de plans psychanalytiques, reste un film effectivement terrorisant, mais grâce à elle, c'est une immense comédienne, elle nous manque. Il faut lui dire, elle nous manque.
Il s'agit donc du silence des agneaux. Oui, c'est pas le... c'est le silence des agneaux, c'est pas le seigneur des anneaux, hein, je vous le dis quand même, pour ceux qui nous écouteraient en cours de route. Et c'est Jonathan...
Joli
d'aimer. Oui, merci Xavier. Close Up, tiens, un film de l'Iranien Abbas Kiarostami qui devait, lui aussi, c'est le jour, hein, il devait ressortir en version restaurée le 25 mars et qu'on trouve en DVD et VOD, un film de 1990. On reste à peu près dans les mêmes époques, hein, basé sur un fait divers tout à fait authentique qui est l'incarcération d'un jeune chômeur d'origine turque, Hossein Zabzian, qui avait tenté d'escroquer une famille bourgeoise de Téhéran en se faisant passer pour le cinéaste Mohsen Marbalbaf et en laissant à croire qu'il cherchait des personnages pour son nouveau film. Tout le monde, à commencer évidemment par Zabzian et Marbalbaf, joue son propre rôle dans ce film un peu étrange. Xavier.
Eh bien, Michel parlait tout à l'heure du fait que pendant pratiquement 20-25 minutes, on ne voyait pas la tête de l'Elephant Man, on n'entendait pas sa voix. C'est exactement le même procédé de conditionnement sur lequel repose le film, parce que pendant pratiquement 25 minutes, on est dans une voiture, procédé que Kiarostami va beaucoup utiliser. On a un journaliste, et c'est l'histoire vraie, effectivement, d'un journaliste qui avait entendu parler de cette famille comme ça, qui avait accueilli le faux Mohsen Marbalbaf chez elle. Il est dans un taxi, il y a deux policiers derrière, et il nous raconte l'histoire. Il va arriver devant la maison, il va faire sortir le propriétaire, et au moment de l'arrestation que l'on voit, le visage nous est flouté, c'est de nous décacher. C'est-à-dire que par des procédés très simples, Marbalbaf ne nous montre absolument pas ce jeune homme. Donc il y a une mise en conditionnement. On a envie de savoir qui est ce jeune homme, qui est ce garçon qui a réussi comme ça à embrigader toute une famille en lui faisant croire qu'elle était le grand metteur en scène, Mohsen Marbalbaf, auteur du Cycliste qui remportait à l'époque un grand succès en Iran. Et je trouve que dès le départ, il y a une intelligence du procédé. C'est-à-dire, quitte à raconter un fait divers, on va raconter la manière dont il est né, dont il s'est créé. Et il va raconter aussi quelque chose de très fort. C'est-à-dire que c'est pas simplement l'histoire d'un mec qui a réussi à se faire passer pour un grand cinéaste. Alors
c'est un film politique aussi. Hein.
C'est un film politique, c'est un film sociétal, c'est un film qui raconte l'Iran de cette époque-là. Il y a même un moment...
Il faut rappeler en deux mots que Marbalbaf avait vraiment épousé l'idéal de la révolution iranienne et devenait à cette époque-là très critique à l'encontre du régime.
D'ailleurs, à un moment, le jeune homme emmène la famille voir le cycliste et fait croire qu'il y a une version moins censurée dans un cinéma qui est très loin dans la ville, ce qui suppose, ce qui laisserait penser qu'il voulait en fait cambrioler, laisser cambrioler la maison, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc c'est un film sociétal et il y a un moment bouleversant dans le film, et vraiment, c'est quand ce jeune homme nous raconte qu'enfin, pour une fois, il a été regardé, il a été écouté, il a pris confiance en lui, il s'est senti devenir quelqu'un, et la manière dont Kiarostami mélange à la fois les images vraies, celle du procès, celle du prétoire, celle donc de la... et puis celle de la reconstitution, c'est-à-dire qu'il va reconstituer des scènes qui sont arrivées, comme la rencontre entre la mère et ce faux Marbalbaf dans le bus, par exemple, il vient brouiller les pistes, mélange le réel et la fiction, et donne quelque chose d'assez impressionnant. C'est un film qui, alors lui, n'a pas pris du tout une ride, qui est un procédé d'une intelligence que je trouve encore remarquable, et vraiment, ça raconte aussi la société, comme tu le disais très bien, iranienne de cette époque-là, avec ses différences sociales. On est quand même dans une famille de bourgeois iraniens, à l'époque, de Téhéran, avec ce garçon pauvre qui essaye de s'en sortir et de réussir, et le film a une force, à la fois, je dis, de scénario, de reconstitution, de mise en scène et effectivement des vocations sociétales qui a encore aujourd'hui, plus de 30 ans après, une gueule pas possible.
Michel ?
Oui, Jean-Luc Godard, dans un moment de modestie assez curieux d'ailleurs, a déclaré...
facile Michel !
Le cinéma commence avec Griffith et se termine avec Kiarostami. Moi, je pensais que c'était avec Godard, mais avec Kiarostami, il sait dire. Il a tout à fait raison.
Je ne sais pas si c'est sympa. Kiarostami est un... Ça va être très méchant.
Alors, pour revenir à Close Up, qui est le film préféré de Kiarostami, il a toujours mis au-dessus de tous les autres, alors que c'est justement un film totalement atypique. C'est-à-dire, c'est très différent de tous les films, y compris La Palme d'Or. C'est très différent du film précédent, Où est la maison de mon ami, qu'il a fait connaître en Occident. C'est un film qui, à mon avis, a deux aspects extrêmement passionnants. D'une part, l'humanisme de Kiarostami, c'est-à-dire ce personnage qui prétend être quelqu'un d'autre pour retrouver l'estime de soi. C'est-à-dire, il y a une compassion pour le personnage principal qui est évidente. Et puis d'autre part, le côté abstrait, la réflexion esthétique, c'est-à-dire de douter de la réalité. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qu'une image ? C'est ce que pose Kiarostami. C'est le côté réflexion sur le mensonge et la vérité. Qu'est-ce que la réalité au cinéma, etc. Avec cette histoire que vous avez tous racontée. Donc, je trouvais le film absolument passionnant. Pour moi, c'est aussi un chef-d'œuvre, mais effectivement, qui est très différent de ce qu'il a fait.
Camille ?
Alors, je ne l'ai pas revu, mais effectivement, on n'a pas besoin de les revoir pour y penser. Et ça, c'est le genre de film. Enfin, c'est quand même au-dessus de tous les autres qu'on traite aujourd'hui. C'est un des plus grands films, peut-être, de l'histoire du cinéma. Il y a un côté film modèle, comme on parle de maison modèle. Enfin, il y a une espèce de perfection dans le dispositif. Et dans ce que ça raconte d'un pays, du cinéma, de la fiction, parce que c'est un grand film vertigineux qui reprend, disons, grosso modo, le mythe d'Amphitryon et de Sosie pour nous raconter une histoire d'usurpation d'identité, de mystification. Et en même temps, comme c'est l'histoire d'un tournage sur l'histoire d'un type qui promettait un film qui ne... Enfin, il y a une espèce de mise en abyme. Comme aujourd'hui, on parle souvent de films méta, là, c'est plutôt le contraire. C'est un film infra. C'est-à-dire que c'est plutôt le faux qui débouche sur le vrai. Enfin, il y a quelque chose d'absolument vertigineux, mais qui creuse dans le film, pas du tout, qui donne quelque chose de très théorique. Le film est vraiment très concret, très proche de ses personnages. Et forcément, comme toujours avec Kiarostami, il y a toujours la mise en scène qui débouche sur une autre mise en scène, qui débouche sur une autre mise en scène. Moi, je sais que c'est le premier film auquel j'avais pensé au moment pour parler d'autres catastrophes qui nous sont arrivées. C'est le premier film auquel j'avais pensé au moment des attentats du 11 septembre, parce qu'il y avait le commandant Massoud qui avait été tué par, comme ça, quelqu'un qui s'était fait passer pour un cinéaste, enfin un journaliste.
Ah oui, avec c'est une caméra. Absolument.
Et voilà,
absolument.
Et j'avais vraiment pensé à Close Up, comme le film qui avait un petit peu anticipé des statues d'images dans lesquelles on vit actuellement. C'est magnifique, c'est un des plus beaux films du cinéma, je pense.
Et formellement, c'est effectivement un film pionnier, Jean-Marc.
Oui, il y a quelque chose d'un peu vertigineux dans la puissance théorique du film et en même temps son côté extrêmement incarné parce que c'est vraiment un film qui fait advenir une personne et qui opère une sorte de réparation, c'est-à-dire cet homme a commis un délit parce qu'il se sentait privé de regard, privé de parole et le film lui offre vraiment cet espace pour se déployer et la manière dont le film le fait émerger. C'est ce qui le rend immense et qui le sauve de ce qu'il pourrait avoir d'un peu manipulateur dans la manière dont Kiarostami, comme un chat qui joue avec sa bobine, joue comme ça du fait du vrai et lui-même dans un processus de manipulation. Mais la puissance avec laquelle il fait émerger la parole et le corps de cette personne est vraiment immense.
C'est donc Close-up de Abbas Kiarostami. On va aller un peu plus vite pour évoquer les derniers films par manque de temps. Vous écoutez bien Le Masque et la Plume déconfiné. Et là, c'est Le Chèque Blanc, le deuxième de Fellini, après Les Feux du Music Hall, qui a eu la semaine dernière à peine quelques jours, j'allais dire quelques heures d'exploitation en fermeture salle. Film en noir et blanc de 1952 avec Brunella Bovo, Giulietta Massina, Alberto Sordi, alors qu'Yvan compte bien profiter de son voyage de noces à Rome pour présenter sa jeune épouse Wanda à sa famille et même obtenir une audience du pape. Eh bien, Wanda préfère, elle, partir à la rencontre de son héros de Rome en photo, le chèque bleu qui est joué par Sordi, avant de découvrir, et j'allais dire évidemment, la lâcheté et la vulgarité de son idole. Tout Fellini est déjà là, Michel, non ?
Oui. Le chèque blanc, alors d'abord, il faut dire que c'est une idée d'Antonioni. Au départ, Antonioni devait faire le film, il est tombé malade, mais c'était une idée qui tenait sur deux ou trois pages, car Antonioni avait fait un court-métrage sur les romans photos, qui s'appelait « Mensonges amoureux », et finalement, le scénario a été refilé à Fellini, ou plutôt, non, l'idée a été refilée à Fellini, avec deux grands scénaristes, Tullio Pinelli et Ennio Flaiano. Il a donc conçu ce film, qui est son premier film en solo, car Les Feux du Music Hall, c'était réalisé avec Alberto Lattuada. Alors, on retrouve effectivement déjà un Fellini poétique, c'est-à-dire ce qu'apporte Fellini, c'est l'introduction de la poésie dans le néo-réalisme, ça va se confirmer plus tard. Un tout petit rôle pour Giulietta Massina, qui s'appelle Cabiria dans le film. Évidemment, ça annonce les nuits de Cabiria. Et c'est une satire un peu de la mythologie, justement, des bandes dessinées, et surtout du roman photo, que satirise Fellini avec ce personnage du chèque blanc, qui est joué par Alberto Sordi, et qui est un personnage qui est un peu fantastique, qui apparaît à ce couple qui arrive un peu benêt avec un homme qui est une sorte de Don Quichotte, une femme qui est une sorte de Madame Bovary. Donc le film a beaucoup de charme. Je ne dirais pas que c'est un grand film, mais on voit la naissance d'un artiste.
Un peu rapidement, Xavier et Camille, il faut revoir ou pas ce deuxième Fellini ?
Ah, pour moi, oui. Oui, excuse-moi, j'ai cru que je parlais, j'aurais pu te céder la parole en toute politesse, avec qui visiblement n'est pas mon fan. Oui, mais Michel a raison, c'est un film mineur, mais c'est un film passionnant dans lequel émergent déjà énormément de Fellini à venir. Il y a Cabiria, il y a aussi un moment où le mari va chercher son épouse dans un pavillon psychiatrique et il y a une sorte de défilé comme ça avec un fou qui est porté sur un lit roulant et il y a quelque chose d'assez surréaliste, d'assez extrême. Dans la poésie et dans la folie, il y a toujours des mouvements. À un moment, grâce à Nino Rota, il y a un mouvement final dans le dernier plan où la foule se met en branle pour aller voir le pape. Et ça devient pratiquement chorégraphique. Il y a plein d'idées, il y a plein de fulgurances, mais il n'empêche que de temps en temps, le film prend un peu l'eau, qu'il est un petit peu balourd en termes de scénario, qu'il n'est pas tout à fait équilibré. Mais c'est vrai que pour les amoureux de Fellini, il est indispensable de le voir parce qu'on va repérer et choper des choses qui sont là, qui sont en prix et qui vont effectivement exploser dans les années futures et dans la suite de la carrière de Fellini.
Camille.
Dans les premiers Fellini, j'ai tendance à me souvenir plutôt de Il Bidone ou dei Vitelloni, qui est quand même, qui sont quand même des films bien supérieurs. Là, je trouve que la moralité un petit peu il faut céder à ses rêves parce que les rêves sont toujours décevants et revenir à une réalité finalement s'en contenter de cette jeune femme qui rêvait de son amour de roman photo qui s'avère un goujat et enfin voilà ces truculences et boostify à la Fellini avec le côté déjà les contre-plongées tout y est mais en même temps je trouve que sur l'idée de l'illusion de la désillusion enfin sur le roman photo il vaut mieux revoir Le Crime de Monsieur l'Ange de Renoir.
D'accord. Alors, je sais que ce chèque blanc de Fellini, Jean-Marc ne l'a pas revu. Mais en revanche, Jean-Marc, tu as revu Voyage à deux de Stanley Donen, qui lui aussi devait ressortir en salle. Je crois que ça va être reporté, j'espère, fin avril, début mai. Et qu'on retrouve en tout cas en coffret DVD chez Wildside avec Audrey Hepburn et Albert Finney, qui forment un couple de 12 ans d'âge, Johanna et Mark Wallace, qui sont au bord du divorce et qui voyagent sur la Côte d'Azur et se rappellent avoir fait 4 fois le même trajet dans des conditions différentes, en se demandant quand ils ont été heureux, quand ils ont commencé surtout à se disputer. Film qui date de 1967 et je crois qu'on n'aura pas le temps d'évoquer le Alan Parker, donc on va terminer avec ce film de Donen, Jean-Marc.
Bah oui, moi c'est un film que j'aime beaucoup, tout en le trouvant légèrement brinque-ballant. On sent que c'est vraiment un film charnière entre deux temps d'Hollywood. Le premier temps, dont Stanley Donen a été un jeune prodige dans les années 50, où la machine hollywoodienne est encore en plein état de marche, où il va co-réaliser avec Gene Kelly des films sublimes. Puis ensuite, des films seuls, un peu moins sublimes, mais quand même très beaux. Et là, c'est pour moi, c'est peut-être son film le plus intime et le plus personnel. C'est effectivement un film sur la désillusion dans le couple et sur l'usure qu'opère le temps sur le désir et sur l'amour. Le film est vraiment porté par ces deux interprètes et surtout par Audrey Hepburn, qui est vraiment génial. Ah oui. Moi, j'adore dans le film que le film ne cherche pas vraiment... Il joue tous les âges de leur vie, entre, disons, 20 ans et 40 ans ou 35 ans. Et en même temps, on ne cherche pas du tout à les déguiser. Il y a juste une coiffure qui change. Et c'est très, très beau de voir les mêmes corps investir uniquement par le jeu et par la manière dont ils jouent, la légèreté ou la gravité, les âges différents de la vie. Le film est vraiment fondé sur la rupture de ton. Il y a des moments extrêmement burlesques. On est presque dans du Black Edwards par moment. Et puis, il y a des moments où on est plus proche quasiment de Cassavetes. Enfin, peut-être en moins violent et moins extraverti dans l'expression du ressentiment. Mais dans quelque chose de quand même très, très crissant dans la description des sentiments. C'est un film très complexe et qui a un sens de la nuance extrêmement, extrêmement fin.
Et pour les autres, il faut revoir Voyage à deux, Camille, Michel, Xavier.
Alors, moi, je ne l'avais pas vu, en fait, je le découvre. Je suis plus une minélienne qu'une donénienne, donc c'est débile, mais j'avais raté. Mais j'ai revu Indiscrete, qui est un film de Donen que j'adore, et je me suis rendu compte que ce type avait beaucoup filmé ce sentiment infilmable qu'était l'amour et le couple. Donc, c'était Ingrid Bergman, le visage d'Ingrid Bergman dans Indiscrete, et là, c'est Audrey Hepburn qui est absolument génial. Et il y a une sorte de inévidence du montage, puisque c'est fait d'associations d'idées, on passe du passé au présent, enfin, comme à l'époque, on faisait beaucoup dans la narration, on déconstruisait tout. Et il y a cette inévidence de la narration qui est très brillante, presque trop vertueuse, mais avec une rapidité d'exécution discrète très forte, et l'évidence absolue d'Audrey Hepburn, de ce visage, encore une fois, qui est là, qui est amoureuse de ce type, et on passe deux heures à se demander pourquoi, et elle est convaincante. Et il y a cette phrase que je voulais citer, parce que je l'ai trouvée très belle, que finalement, dit à un moment donné sur le cinéma en 67 et Hollywood où il en était, c'était avant les hommes voulaient faire quelque chose, maintenant ils veulent se faire un nom. Et j'ai trouvé
Xavier.
Oui, c'est une merveille, c'est vraiment une merveille. Je pense qu'il faut le montrer, il faut le revoir, parce qu'en termes de montage, Camille l'a très très bien dit, c'est virtuose, ça passe par une voiture qui va traverser l'écran et qui va nous ramener à une autre période antécédente ou postérieure. Je trouve qu'il y a une brillance dans le scénario, c'est-à-dire que les époques se télescopent, s'interrogent, se répondent de manière extrêmement intelligente. Il y a la beauté, c'est là où on s'aperçoit que le cinéphile est un fétichiste. Jamais la beauté de Audrey Hepburn, habillée, déshabillée, de mille et une façon, n'a suscité autant de bonheur et autant de plaisir à être vue. Elle est extraordinaire dans le rôle. Comme l'a très bien dit Jean-Marc tout à l'heure, il y a un côté burlesque qui traverse le film, qui est plutôt réussi avec ses sorties de route des voitures. Il y a toujours une voiture qui termine dans le fossé, mais c'est un peu à l'image de ce couple. Il multiplie les sorties de route avant de reprendre peut-être enfin, définitivement, le bon chemin.
Allez, le mot de la fin pour Michel sur le voyage à deux.
Oui, alors je m'excuse de parler en nouveau du scénariste Frédéric Raphaël. C'est un scénario brillantissime, certainement influencé par René à l'époque, c'est le 67, donc on a vu les grands films de René, sur l'intervention du passé dans le présent et l'importance de la mémoire. Et aussi, Stanley Kubrick se rappellera de ce film, puisque 30 ans plus tard, il appellera Frédéric Raphaël pour écrire Eyes Wide Shut, qui est également un film sur les problèmes d'un couple, sur le vieillissement, sur le fait que lorsqu'un couple devient trop familier des habitudes de l'autre, il commence à se désintégrer. Donc le film est très très brillant, évidemment, mais c'est le troisième film de Stanley Donen avec Audrey Hepburn. Dans Drôle de Frimousse, elle était face à Fred Astaire. Dans Charade, elle était face à Cary Grant. Et là, elle est en face de Albert Finney. Et Albert Finney, c'est le contraire des deux précédents, c'est-à-dire il n'y a pas de charme. Il lutte contre le charme, il est déplaisant, il est horripilant, il contraste évidemment avec l'extraordinaire émotion que dégage Audrey Hepburn et la glamour de Audrey Hepburn. Si Wilder montre la vulnérabilité de Audrey Hepburn dans ses films, Stanley Donen montre son attrait véritable, sa beauté, sa sensibilité. Donc c'est un film très remarquable, avec ses quatre étapes dans le rapport entre Marc et Johanna, étudiants, nouveaux mariés, couple voyageant avec un autre couple, et finalement la maturité et la désintégration du couple. Donc c'est un film
à la fois comédie, pardon de vous presser,
et une histoire de couple.
Voyage à deux, donc, de Stanley Donen en DVD. Donc, j'ai entendu des hurlements pour Mississippi Burning tout à l'heure d'Alan Parker. Donc, on va l'oublier. Et puis, on n'a pas le temps.
C'est souhaitable.
On n'a pas le temps.
On a dû le revoir, allez, quand même.
On se l'est retapé, t'es gentil. Hein.
Non, mais attendez, on peut très bien l'inscrire à un prochain masque, hein, si vous êtes d'accord. Moi, je veux bien.
Il y a eu
un débat
sur
Parker.
J'en suis sorti
après,
avec une
tonalité
aiguë, donc je ne veux plus jamais revoir Parker.
Bon, allez, un conseil chacun pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui sont eux aussi, comme nous tous, confinés. On va commencer avec Camille.
Donc, j'ai le droit à un ou deux conseils?
Non, un, parce que là, on n'aura pas le temps de terminer, sinon le timing de l'émission.
Je vais poursuivre ma série centenaire de Eric Rohmer, notre, en fait, donc les 10 ans de la mort et le centenaire de la naissance, à la fois en cette année étrange qui nous est tombée dessus. Et donc après le recueil de textes assez rares que j'avais présenté il y a quelques semaines, là c'est Françoise Etchegaray qui a été la seconde, la fidèle assistante, femme à tout faire, gouailleuse d'Eric Rohmer, qui sort un livre de souvenirs qui s'appelle Contes des mille et un Rohmer aux éditions Exil, et c'est Superbe. C'est, si on aime à la fois Romère, l'idée des anecdotes et en même temps avec une vraie réflexion, une vraie intelligence sur ce que c'est que le cinéma, on croise Godard, qui en avait marre à l'époque de s'appeler Godard, Romère qui demande ce que cette vieille frappe de Bresson fait en ce moment. Enfin, il y a une espèce de truculence et en même temps de vraie intelligence, parce que François Etchegaray est vraiment une sorte de maillon indispensable au petit monde de Romère. Et voilà, donc pour lui rendre hommage à Romère et à François Etchegaray qui a bossé dans l'ombre de Romère toutes ces années, il faut lire Conte des mille et un Romère.
Le conseil, je vous presse un peu, le conseil de Jean-Marc.
Alors, c'est l'initiative d'un éditeur qui s'appelle Revoir et qui a mis en streaming gratuitement un film par jour. Donc, c'est des films dits.
Ah, c'est génial ça.
Voilà, et on peut revoir par exemple le mardi prochain, on pourra voir La cicatrice intérieure de Philippe Garrel.
Ouais.
Qui est un film sublime.
Peut-être pour moi le plus grand de Garrel.
Ouais, moi aussi, un des deux, trois les plus beaux films de Philippe Garrel. Donc on peut le voir gratuitement toute la journée, mardi prochain. Mais il y a aussi des films de Marcel Hanoun, de Maya Deren, de Jonas Mekas. Donc c'est une très belle initiative.
Le conseil de Xavier.
Profitons de la gratuité. OCS ouvre gratuitement donc son antenne et vous pouvez découvrir la série adaptée du roman de Philip Roth, The Plot Against America, le complot contre l'Amérique, qui en 1940 voit l'élection contre Roosevelt, l'élection remportée par Lindbergh. Lindbergh est un antisémite notoire qui va faire souffler sur l'Amérique de l'époque avant d'antisémitisme et de xénophobie. Le roman est de 2004. David Simon qui a signé, qui est l'auteur de The Wire sur écoute et d'Homicide, qui a signé l'adaptation, l'a clairement annoncé. C'est une série contre Trump, contre ses élections surprises qui voient monter des fachos au pouvoir de l'Amérique et qui font régner le pire des vents nauséabonds sur les États-Unis. C'est absolument remarquable, le complot contre l'Amérique sur OCS. Profitez-en, c'est gratuit.
Et le conseil de Michel, pour finir. Ben,
je suis d'accord avec Camille, mais je voudrais ajouter quelque chose. Romère aurait 100 ans cette année, et c'est effectivement, il y a le recueil des chroniques de cinéma, en dehors des cahiers du cinéma, qui s'appelle « Le sel du présent », rassemblé par Noël Herbe. Et puis, il y a ce livre de Françoise Etchegaray, mais je voudrais rajouter une petite chose. Françoise Etchegaray a travaillé 27 ans avec Romère. Elle a tourné 13 longs-métrages avec lui. C'était sa directrice de production, son intendante, sa cadreuse, son ingénieur du son, sa cuisinière, sa psychologue. Je pense
que... Ça veut dire qu'on avait le même conseil, en fait. C'est bien.
C'est un livre absolument précieux parce que c'est un homme très secret, très mystérieux, Romère. Très peu de gens le connaissaient vraiment. Même les gens qui distribuaient ses films ne savaient pas, n'avaient jamais rencontré sa femme, par exemple, qui séparait totalement sa vie privée de sa vie professionnelle. Et d'avoir ce livre, c'est un merveilleusement écrit, c'est un magnifique témoignage.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur la page du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Camille Nevers, Xavier Le Herpeur, Michel Simon et Jean-Marc Lalanne d'avoir essuyé les plâtres de cette première émission qui était, comme chaque semaine, présenté par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam et réalisé de chez lui, on applaudit, Xavier Pistuggia.
Bravo.
Je vous dis à dimanche prochain pour un masque littéraire sur France Inter, évidemment, et la fois d'après, on reparlera de films. Merci à tous et à dimanche prochain.